Bienvenue dans les partages au cœur du vivant. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Pourtant, il suffit parfois de quelques minutes pour qu'un regard change, qu'une compréhension s'ouvre, ou simplement pour revenir à l'essentiel. Je suis Céline Moreau et j'ai créé les ailes de l'être. J'ai à cœur de créer des espaces de reconnexion à soi, aux autres et à la vie. À travers ces partages, je ne cherche pas à transmettre une vérité. J'ai simplement la joie de partager des explorations, des compréhensions et des expériences qui nourrissent mon propre chemin, avec l'élan qu'elles puissent peut-être éclairer le tien. Je t'invite simplement à laisser ces mots résonner en toi et à observer ce qu'ils viennent mettre en mouvement. Je te souhaite une belle exploration. Quand tu écoutes ton cœur, qu'écoutes-tu réellement? Nous entendons souvent cette invitation « Écoute ton cœur ». C'est une phrase que l'on retrouve partout, dans les livres de développement personnel, dans les accompagnements, sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je me suis souvent et longtemps demandé si nous comprenions vraiment ce que cela voulait dire. Lorsque nous disons « j'écoute mon cœur », qu'écoutons-nous réellement? Quelle est cette voix que nous croyons entendre? Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru écouter mon cœur. Mais en regardant mon propre chemin avec davantage de recul, de perspective, je me suis aperçue que ce que j'appelais écouter mon cœur était bien souvent autre chose. Petit à petit, sans même m'en rendre compte, je m'étais éloignée de lui. La vie m'avait amenée à traverser différentes expériences. Comme beaucoup d'entre nous, j'avais appris à m'adapter, et plutôt à me suradapter, à répondre aux attentes, à vouloir bien faire, à être reconnue, à éviter de décevoir. Et sans le voir, je m'étais construite autour de cette suradaptation permanente. Au fil des années, j'ai commencé à vivre davantage à travers le regard des autres qu'à partir de ce qui était profondément vivant en moi. Je portais des croyances, des peurs, des exigences. Je pensais qu'il fallait être forte, compétente, à la hauteur. Qu'il fallait contrôler, comprendre. Et peu à peu, un mental très présent a pris de plus en plus de place. Mon cœur, lui, semblait devenir plus discret, comme s'il s'était refermé, comme s'il s'était endormi. Je ne l'avais pas perdu, mais il était devenu presque inaccessible, enfermé dans toutes les constructions de ce que j'appelle aujourd'hui notre petit moi. Alors, lorsque l'on nous dit « écoute ton cœur », de quoi parle-t-on exactement ? Parlons-nous simplement de nos émotions, de nos envies, de notre intuition, de nos ressentis? Parce que finalement, lorsque nous portons notre attention sur notre poitrine, nous n'entendons même pas battre notre cœur. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment? J'aimerais te proposer un autre regard au travers de ce partage. Un regard qui s'est construit au fil de mon cheminement, de mes accompagnements et de mes recherches. Un regard qui nous invite à comprendre comment notre personnalité s'est construite et comment progressivement nous avons perdu le contact avec cette intelligence du vivant qui est pourtant toujours là. Lorsque l'on évoque le cœur, nous pensons aussitôt à ses battements, n'est-ce pas? Car n'est-ce pas sa façon bien à lui de nous signaler sa présence? Et pourtant, depuis combien de temps n'as-tu pas entendu battre le tien? Je t'invite à une petite expérience. Si tu le peux, ferme doucement les yeux. Puis pose une main sur ton cœur. Prends simplement quelques instants. Et cherche à sentir ses battements. Les entends-tu? Peux-tu les percevoir? Peut-être que oui, peut-être que non. Certaines personnes que j'accompagne me disent qu'elles ne sentent même plus leur cœur battre, comme si, au fil du temps, elles s'étaient tellement éloignées d'elles-mêmes que leur accès au cœur s'était progressivement recouvert de couches de protection, de tensions, de préoccupations, de voiles d'oubli. Non pas parce que leur cœur a disparu, il est toujours là, bien sûr, mais parce que nous pouvons, peu à peu, nous éloigner de nous-mêmes. Et c'est là que commence, selon moi, une véritable exploration. Pour comprendre cette exploration, j'aimerais t'inviter à revenir quelques instants sur la manière dont nous nous sommes construits, la manière dont notre personnalité s'est construite, notre petit moi, comme une invitation à porter un autre regard sur notre relation à nous-mêmes, aux autres et à la vie. Car cette construction nous a progressivement attachés à une manière de percevoir la réalité et une manière de percevoir qui nourrit la séparation. Elle nous enferme dans des idées sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, dans des croyances, dans des certitudes, dans des interprétations que nous avons souvent beaucoup de mal à remettre en question et qui génèrent des tensions, des conflits avec soi-même ou avec les autres. Pour éclairer cette vision, j'aime m'appuyer sur les travaux du psychologue Jean Piaget qui a consacré une grande partie de sa vie à comprendre le développement de l'enfant. Avant l'âge de 2 ans environ, le bébé ne fait pas encore l'expérience de la séparation. Il ne se perçoit pas comme un individu distinct du monde qui l'entoure. Il n'a pas encore conscience de son schéma corporel. Il ne dit pas « moi », il ne dit pas « l'autre ». Il est simplement là, présent, en relation directe avec la vie. Et c'est souvent ce qu'on perçoit. Peut-être l'as-tu déjà perçu quand tu regardes un bébé. Il y a quelque chose d'hypnotisant dans le regard d'un bébé. Son cerveau est encore en pleine maturation. Le cortex préfrontal qui nous permettra plus tard de voir les détails, d'analyser, de comparer, d'interpréter et de construire une représentation de nous-mêmes est encore en développement. Autrement dit, il n'y a pas encore de personnage, il y a simplement la présence. Et cette vision résonne profondément avec ce que nous montrent aujourd'hui certains champs de recherche, notamment en physique quantique. Ils nous invitent à envisager que ce que nous appelons notre corps n'est peut-être pas la totalité de ce que nous sommes. Notre corps est précieux. Il est notre point d'ancrage dans cette expérience humaine. Mais il émerge d'un champ infiniment plus vaste que certains nomment champ de conscience. Et ce changement de regard me semble essentiel. Car si nous nous identifions uniquement à notre personnalité, à notre corps, et par là même à nos histoires, à nos pensées, nous passons à côté d'une dimension beaucoup plus vaste de nous-mêmes, une dimension qui, elle, n'a jamais été séparée de la vie. Et le nourrisson nous rappelle cet état d'être, cette totalité. C'est pourquoi je crois qu'il est précieux de nous intéresser à ces deux dimensions, à la conscience et à notre expérience incarnée, à cette présence silencieuse qui est déjà là, et à la manière dont elle prend forme à travers notre corps, nos sensations et notre vie de tous les jours. Car écouter son cœur, ce n'est peut-être pas simplement écouter une émotion ou une intuition ou une sensation qui dit que je ne devrais pas vivre ce que je suis en train de vivre. Et c'est peut-être avant tout réapprendre à nous laisser rejoindre par cette présence vivante qui ne nous a, elle, jamais quittés. À partir de 2 ans environ, quelque chose de fondamental se produit. Grâce aux travaux de Jean Piaget, nous savons que c'est à cette période que l'enfant commence progressivement à se reconnaître comme un individu distinct. À partir de 2 ans et jusqu'à l'âge de 7 ans, il découvre son corps. Il dit « moi », puis c'est à « moi ». Cette étape est essentielle à son développement. Mais elle marque aussi, selon moi, le début d'une expérience de séparation. Cette séparation est renforcée par plusieurs phénomènes. Tout d'abord, par les neurones miroirs qui nous permettent d'apprendre en imitant notre entourage. Nous observons et nous reproduisons. Nous intégrons les comportements, les croyances et les façons de percevoir le monde de ceux qui nous entourent. Mais cette séparation s'inscrit aussi dans notre corps. Notre organisme grandit, il se transforme. Son activité métabolique se développe, évolue, avec l'activité de digestion, de respiration. Et progressivement, l'eau qui compose notre corps perd une partie de la cohérence naturelle présente chez le tout jeune enfant. L'eau de notre corps devient alors plus dense, plus lente, plus statique. J'aime voir dans cette transformation le moment fondateur de notre expérience humaine, celui où apparaît cette conviction profondément ancré chez l'être humain d'être ce corps et de s'identifier à nos pensées, à nos émotions, à nos sensations. Et à partir de cette conviction profonde d'être ce corps, une frontière semble se dessiner. D'un côté, il y aurait moi, mes pensées, mes émotions, mes croyances, mes désirs, et mon histoire, et de l'autre, au-delà de mes contours physiques, il y a l'autre, les autres, les événements, le monde, la vie. Autrement dit, dès l'âge de 2 ans, mais de manière plus présente, à partir de 7 ans, nous commençons à vivre dans ce qu'on appelle une double réalité. Une réalité intérieure, limitée aux contours de notre corps. Et dans cette réalité intérieure, avec les pensées, les désirs, les rêves et toutes les histoires qui se racontent, et une réalité extérieure qui semble exister indépendamment de nous. À partir de ce moment-là, 2 réalités vont continuellement se rencontrer et souvent s'opposer. La réalité intérieure raconte comment les choses devraient être, comment je devrais vivre, comment je devrais être en relation, comment je devrais être en bonne santé. Et la réalité extérieure nous présente simplement ce qui est. Une réalité extérieure qui peut souvent ne pas être conforme à notre réalité intérieure, à nos rêves, à nos désirs. Et c'est dans cet écart que naît la souffrance. Et c'est précisément dans cet espace que notre personnalité commence à se construire. Autrement dit, notre petit moi ne naît pas de ce que nous sommes profondément. Il naît de la manière dont nous essayons de nous adapter, de nous suradapter à cette expérience de séparation. Et petit à petit, nous fabriquons des identités telles que la bonne élève, le fort, la parfaite, la mère, le père de famille, la sauveuse, le rebelle, la gentille, le performant, etc., etc. Et nous finissons par croire que nous sommes ces personnages. Et à chacun d'eux sont associés des besoins. Le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, de réussir, d'être utile. Et ce qui est propre à cette construction de notre petit moi, de notre personnage, c'est le besoin d'exister, coûte que coûte, le besoin d'avoir raison. Alors nous passons notre vie à défendre ces identités et à nous comparer et à nous opposer, à chercher à devenir quelqu'un, sans voir que cette quête entretient précisément le sentiment de séparation dont elle est née. Nous entrons alors dans une véritable spirale qui nous maintient toujours dans les mêmes schémas. Nous avons tendance à reproduire, à vivre les mêmes schémas. Et nous vivons dans une conscience personnelle, construite autour du manque. Le manque d'amour, le manque de reconnaissance, le manque de sécurité, de sens, d'élan. Et plus nous cherchons à combler ce manque, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Parce que nous oublions quelque chose d'essentiel. Nous oublions que nous faisons déjà partie de ce champ de conscience qui anime toute forme de vie. Et nous ne remettons jamais, presque, en question cette idée qui semble pourtant tellement évidente. Je suis ce corps. Je suis ce cerveau. Jusqu'à l'âge de 2 ans environ, notre cœur bat naturellement au rythme de la vie. Il n'y a pas encore de séparation. Le bébé ne se vit pas comme un individu isolé. Il est pleinement relié à ce qui est. Puis, peu à peu, sous l'effet de cette mécanique de la double réalité, des conditionnements, de notre construction personnelle, quelque chose se transforme. Notre cœur semble se refermer, coupé en deux, entre cette réalité intérieure et cette réalité extérieure, comme s'il se coupait de cette unité première, comme s'il se recouvrait lui aussi de voiles d'oubli. Et avec cette fermeture, il perd progressivement l'une de ses qualités essentielles, sa disponibilité à ce qui est. C'est vraiment l'image du bébé, du nourrisson. Ce qui nous touche dans son regard, dans le regard d'un bébé, c'est cet émerveillement, cette disponibilité à vivre ce qui est, cette capacité naturelle d'adaptation. Ici, je ne parle pas de la suradaptation, parce que la suradaptation consiste vraiment à s'oublier pour répondre aux attentes des autres, alors que l'adaptation du vivant est tout autre. C'est la qualité première de la nature. Elle est une ouverture, une intelligence qui permet d'accueillir pleinement ce qui se présente. À partir du moment où nous croyons être uniquement ce corps, ce petit moi qui prend progressivement les commandes de notre vie, et ce petit moi vit dans une conscience qui est alors localisée aux limites de ce corps. Et il entretient une illusion profonde, celle d'être séparé de la vie. J'aimerais te poser une question. Si ton cœur battait exactement de la même manière toute la journée, serait-ce une bonne nouvelle ? Intuitivement, nous pourrions répondre oui. parce que nous associons souvent la régularité à la stabilité. Et pourtant, en vérité, la réponse est non. Un cœur vivant est un cœur variable. Dans les années 90, les chercheurs de l'Institut Huysmans aux États-Unis ont largement contribué à faire connaître cette notion encore peu méconnue du grand public, la variabilité cardiaque. Concrètement, un cœur en bonne santé ne bat jamais de manière parfaitement régulière. L'intervalle entre deux battements varie en permanence, un peu avant une seconde, un peu après une seconde. Et c'est précisément cette variabilité qui lui permet de remplir sa fonction. Alors, une nouvelle question peut apparaître. À quoi peut bien servir un cœur qui bat de manière irrégulière? Pourquoi la nature nous aurait-elle donné un cœur capable de varier en permanence? Derrière toutes nos quêtes de bien-être, nos recherches de vérité, nos besoins de sécurité, finalement, que cherchons-nous? Nous cherchons quelque chose de stable, nous cherchons une sécurité, une fiabilité. Et pourtant, notre quotidien est fait d'imprévus, de changements, de rencontres, d'émotions, d'aléas. Alors, c'est précieux de comprendre que le cœur nous offre alors une capacité extraordinaire. Il nous permet de nous adapter instant après instant à tout ce qui se présente. Sa variabilité est l'expression même de cette intelligence du vivant. Un cœur variable est un cœur disponible. Disponible pour accueillir chaque événement. Disponible pour répondre à chaque situation. Et alors, disponible pour battre dans toutes les directions que la vie lui propose. Mais à partir de 2 ans, et de manière plus rigide à 7 ans, lorsque le sentiment de séparation s'installe, notre manière de vivre change. Face à un événement difficile qui nourrit un sentiment de frustration, face à une critique, face à une peur qui jaillit, face à une situation mal vécue qui peut nourrir une sensation d'impuissance, nous ne voulons plus vivre ce qui est là. Et constamment, nous voulons vivre autre chose que ce que la vie nous propose de vivre. Et c'est précisément à cet instant que notre cœur perd sa disponibilité. Il cesse alors de s'adapter. Il se rigidifie. Il est coupé en deux. Comme s'il se mettait à battre en un. Un nouveau voile apparaît. Nous percevons alors la réalité à travers la séparation. Enfermés dans cette illusion d'être ce personnage, d'être ce corps, on vit constamment dans cette double réalité et dans cette double vérité. Et on perçoit constamment la réalité à partir de cette frontière, avec une vérité intérieure qui dit quelque chose et une vérité extérieure qui n'est pas forcément conforme à la vérité intérieure. Alors, dans cette mécanique, dans cette construction, nous cherchons à prévoir, à contrôler, à nous rassurer, à nous protéger, à nous sécuriser. Nous aspirons à une vie parfaitement stable. Nous recherchons la sécurité, la fiabilité, alors que le vivant, lui, est mouvement permanent. Dans cet petit espace qui est l'espace du personnage, nous cherchons une vérité absolue dans un monde qui, par nature, est en perpétuelle évolution. J'aimerais te poser une autre question. Regarde simplement ta journée. As-tu simplement le sentiment réellement de t'adapter à ce qui se présente? Ou remarques-tu que tu vis plutôt la peur, la frustration, l'impuissance, l'insécurité, l'insatisfaction? Par exemple, aujourd'hui, combien de fois as-tu résisté à ce qui était là? Une critique, le fait d'être en retard, une contrariété, une émotion présente. Si tu reconnais cela, ce n'est pas une anomalie. C'est important. Vraiment de voir que ce n'est pas une anomalie. C'est simplement le signe que ton cœur a peu à peu perdu sa disponibilité naturelle à accueillir les aléas de la vie. Et à nouveau, j'aimerais insister sur ce point, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une erreur. C'est le fonctionnement normal de notre personnalité qui ne peut vivre que dans cette double réalité avec ses doubles vérités. Et au cœur d'une même journée, nous alternons tous, toutes des moments où notre cœur reste ouvert et adaptable lorsque les situations nous conviennent, et d'autres qui ne nous conviennent pas, où il se referme parce que nous résistons à ce qui est, nous voulons vivre autre chose. Mais la vie est inévitable. Nous ne pouvons pas empêcher une situation d'apparaître. Nous ne pouvons pas empêcher une sensation d'apparaître, ni une émotion, ni une pensée. Elles surgissent. Alors, plutôt que de les considérer comme des ennemis, nous pourrions commencer à les voir autrement, comme des indicateurs, des signaux. Qui nous montrent simplement les endroits où nous résistons encore à la vie. Les endroits où nous nous fermons, les endroits où nous refusons ce qui est. Et si nous acceptions de les regarder ainsi, alors chacune de ces expériences pourrait devenir une invitation à retrouver notre capacité d'adaptation. Et c'est une invitation à changer de paradigme, de ne plus entrer en résistance par rapport à ce qui est présent, mais à voir que chaque situation mal vécue, chaque difficulté est une opportunité, un cadeau pour renouer avec la vie. Une invitation à retrouver notre cœur, à retrouver la vie et arrêter de constamment vivre dans la survie. Alors, écoute ton cœur. Et si nous avions depuis toujours mal compris cette phrase? Très souvent, nous pensons qu'écouter notre cœur consiste à suivre nos envies, nos rêves, nos besoins, nos intuitions, à faire ce qui nous plaît, ce qui nous rassure, ce qui nous semble juste pour nous. Et pourtant, si nous revenons à tout ce que nous venons d'explorer ensemble, nous pouvons nous apercevoir que cette manière d'écouter notre cœur nourrit bien souvent la double réalité. Car notre petit moi pilote notre vie et cherche naturellement à faire correspondre la réalité extérieure à sa réalité intérieure. Avec ce fonctionnement, selon deux principes. Le premier, c'est que ma réalité intérieure est souvent plus vraie que la réalité extérieure. Et le second, la réalité extérieure devrait se mettre au diapason de ce que je ressens de ce que je pense ou de ce que je désire. Sans même nous en rendre compte, nous vivons alors dans une lutte permanente avec la réalité. Nous combattons constamment ce qui est. Nous voulons avoir raison. Nous cherchons à contrôler, consciemment ou inconsciemment, être puissant. Nous cherchons la sécurité dans ce qui est stable, prévisible et conforme à nos attentes. Et c'est ce que l'on appelle le règne du masculin. Non pas le masculin en tant qu'homme ou femme, mais cette énergie qui cherche à soumettre la vie. À cet instant, nous n'entendons plus battre notre cœur. Nous existons principalement en tant que personnage. Et pourtant, le cœur ne nous dit jamais, fait uniquement ce qui est confortable. Il nous murmure toute autre chose. Il nous dit, reste ouvert, ouverte à ce qui est là. Même lorsque c'est inconfortable, même lorsque cela fait peur, même lorsque cela ne correspond pas à tes attentes. Oui, en vérité, c'est un véritable chemin d'humilité. Et peut-être même le plus grand paradoxe de notre existence. En nous construisant une identité avec un prénom, un nom, une profession et toutes ces histoires que l'on se raconte, des rôles, une vie que nous cherchons à réussir, progressivement, nous avons perdu notre lien vivant avec la vie. Nous avons perdu cette disponibilité naturelle à vivre avec ce qui est. Car savoir vivre avec, c'est apprendre paradoxalement à s'oublier personnellement. Vivre avec, c'est apprendre paradoxalement à s'oublier personnellement. Non pas à se nier, mais à cesser de faire de notre personnage le centre de notre existence. Écouter son cœur, ce n'est peut-être pas apprendre à vivre sa vie, c'est apprendre à vivre avec la vie. Et s'oublier, ce n'est pas oublier son cœur, c'est justement le retrouver. C'est là tout l'immense paradoxe de l'être humain. Dans notre quotidien, nous cherchons naturellement les situations qui nous conviennent, celles qui nous rassurent, celles qui confirment nos croyances, celles qui nous donnent raison. Mais dans son immense intelligence, la vie, fait toute autre chose. Elle ne nous propose pas toujours les situations qui nous arrangent. Elle nous propose les situations dont nous avons besoin, non pas pour nous punir, mais pour nous redonner accès à cette variabilité que nous avons peu à peu perdue. Elle nous invite à retrouver cette capacité à vivre avec toutes les directions que peut prendre notre existence. Alors oui, parfois la vie vient nous contrarier. Elle vient toucher précisément ce que notre personnage refuse. Elle nous met en présence d'une frustration, d'une peur, d'un conflit, d'une perte, de telle ou telle émotion. Non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous offrir l'occasion de retrouver la paix, de retrouver de l'espace, retrouver un cœur capable de battre à nouveau au rythme du vivant. Et peut-être qu'au fond, aimer, c'est simplement cela, Retrouver le boum boum de notre cœur. Ce mouvement permanent de contraction, d'expansion, qui peut être vécu simultanément, qui n'est jamais séparé de la vie. Alors, comment retrouver cette capacité d'adaptation qui est la signature même du vivant? Comment réapprendre à vivre avec ce qui est plutôt que de passer notre temps à lutter contre ce qui est déjà là et à nous maintenir dans la survie? C'est précisément ce que le PIS m'a permis de découvrir. Le PIS, ou processus empathique d'abandon corporel et émotionnel, n'est pas une méthode qui cherche à modifier ce que nous vivons. Il ne cherche pas à supprimer nos émotions, à transformer nos croyances, à corriger nos comportements. Bien souvent, nous cherchons à nous débarrasser de ce qui nous dérange, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à éliminer nos peurs, à contrôler nos pensées. Mais si le véritable changement n'était pas là? Et si le véritable changement consistait simplement à réapprendre à vivre? À vivre avec une peur, à vivre avec une tristesse, à vivre avec une colère, à vivre avec une sensation d'impuissance, à vivre avec tout ce que la vie nous propose de rencontrer. Le PIS devient alors un véritable chemin de réalignement, un chemin d'ouverture à la vie, un chemin de libération corporelle et émotionnelle. Un espace où nous cessons enfin de nous battre contre ce qui est déjà vécu. Et c'est là que le changement de paradigme prend tout son sens. Car cette mécanique de rester avec vient progressivement dissoudre cet espace illusoire de séparation que notre personnalité entretient depuis si longtemps. En restant avec, nous redevenons vivants. Pour sortir de cette oscillation permanente entre notre réalité intérieure et la réalité extérieure, entre une vérité intérieure et une vérité extérieure, qui oscille constamment, un jour une pensée peut aller dans cette direction, un autre jour ça peut être une autre pensée. Pour apaiser ce mental qui tourne en boucle, il ne s'agit pas de faire disparaître l'information. Il s'agit de rester avec elle. Prenons l'exemple d'une peur. Lorsque je la refuse, lorsque je lutte contre elle, elle semble envahir tout mon espace. Elle prend toute la place. Je pense que tu l'as déjà ressenti. Et lorsque je lui offre un espace beaucoup plus vaste pour être accueilli, alors quelque chose se met en mouvement. Face à une peur, tu peux répéter ce mantra. Ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. Tu dis ton prénom dans un premier temps. Prénom, ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. Prénom, ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. prénom, ressentir cette peur sans en dépendre pour la ressentir. Dans son exploration, le PIS mobilise différents mantras au travers d'un langage qui invite à retrouver l'immensité de la vie. J'aime utiliser cette image. Imagine une goutte de poison déposée dans un verre d'eau. Imagine que ta peur soit déposée dans un verre d'eau, dans un espace restreint. Toute l'eau prend alors son goût, tout ton corps est envahi par cette peur. Maintenant, imagine cette même goutte déposée dans l'immensité de l'océan. La goutte est toujours là, mais elle n'a plus la même saveur. La peur est toujours là, mais elle n'a plus la même saveur. Et il en est de même pour toutes nos émotions. Lorsque nous les vivons uniquement à l'échelle de notre personnage, elles prennent toute la place parce qu'elles sont vécues dans un espace étroit, dans l'espace de notre corps, à l'image du verre d'eau. Mais lorsque nous les accueillons dans cet espace beaucoup plus vaste qu'est la conscience, elles retrouvent simplement leur nature. La peur redevient alors une information. La tristesse redevient une information. La colère redevient une information. Juste une information. Et nous n'avons plus besoin d'avoir une histoire sur elle. Car au travers de toutes nos histoires, on alimente le personnage, on alimente la séparation. Et en restant avec, nous pouvons simplement les rencontrer. Et c'est peut-être cela le véritable changement de paradigme. Commencer à regarder les événements de notre vie à l'échelle de la conscience, cette conscience qui englobe toute la réalité, cette conscience qui, elle, n'a jamais été séparée de la vie. Alors, nos difficultés ne sont plus des obstacles sur notre chemin. Elles deviennent des prétextes, des invitations que la vie nous adresse pour retrouver notre boum, boum. Pour retrouver cette capacité d'adaptation qui est la signature même du vivant. Et le cœur nous le rappelle à chaque instant. Il ne bat jamais de manière régulière. Il ne cherche pas la stabilité. Il épouse le mouvement. Il danse avec la vie. Alors, peut-être que suivre la voie du cœur, ce n'est pas vivre une vie sans imprévu. C'est apprendre à rester ouvert, ouverte au milieu des imprévus. C'est retrouver cette capacité profondément vivante à accueillir ce qui est. Comme le fait notre cœur depuis son tout premier battement. Car la vie est inévitable. Nous ne pouvons empêcher une pensée, une sensation ou une émotion ou une situation d'apparaître. En revanche, nous pouvons apprendre à ne plus nous fermer lorsqu'elles apparaissent. Et c'est peut-être cela, écouter son cœur. Ce n'est plus seulement écouter ses envies, ses besoins ou ses intuitions. À partir de cet espace de double réalité, c'est retrouver cette disponibilité intérieure qui nous permet de vivre avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Alors, prête à te rencontrer en vérité, à suivre et explorer des chemins qui ont du cœur. si tu sens que c'est le moment pour toi de sortir de la survie pour enfin vivre et te sentir pleinement vivante, vivant, quels que soient les événements de ton quotidien. Je serai heureuse, honorée de cheminer à tes côtés. Je te souhaite une belle exploration.